Métaphysique d'Aristote, livre.
Et que toute notion a des parties, et puisque d'autre part la notion est dans le même rapport à l'égard de la chose, pragma, que la partie de la notion à l'égard de la partie de la chose, et ce parallélisme qu'il établit, qui est assez délicat, hein, c'est analogique, si c'était univoque, ce serait une théorie du reflet. La connaissance serait reflet de la réalité. Alors toutes les parties de la connaissance seraient les parties de la réalité. Il faut le comprendre analogiquement, c'est bien évident. Autrement, ce serait vraiment la théorie du reflet. La théorie du reflet, vous voyez, c'est Garrodi par rapport au marxisme. Garrodi, quand il fait la critique de la connaissance marxiste, dit que la connaissance pour le marxiste est un reflet de la réalité. Comme le miroir qui reflète. Alors il n'y a plus d'abstraction. Et c'est pour ça que la dialectique peut mesurer. Il faut bien comprendre ça. On peut se demander alors s'il faut ou non que la notion des parties, le logos des parties, se trouve dans la notion du tout. Il semble en effet qu'il en soit ainsi dans certains cas, dans d'autres non. Ainsi, la notion du cercle ne contient pas celle des segments, tandis que la notion de la syllabe contient celle des lettres. Et pourtant, le cercle se divise en segments aussi bien que la syllabe en cercle, aussi bien la syllabe en lettres. De plus, c'est toute la question du parallélisme entre les parties du logos et les parties de la réalité. De plus, si les parties sont antérieures au tout, l'angle aigu étant partie de l'angle droit, et le droit et le doigt partie de l'animal, l'angle aigu ne serait-il pas antérieur à l'angle droit et le doigt antérieur à l'homme? Ça dépend de quelle sorte d'antériorité vous comprenez. Est-ce que le doigt existe avant l'homme? Vous voyez un doigt qui bouge tout seul? Est-ce que le doigt existe avant l'homme? Mais il semble bien que ces derniers soient antérieurs, en effet. Ils sont antérieurs à la fois dans leur logos, les parties étant dites à partir d'eux, et dans leur être, séparés qu'ils sont celles-ci. Donc alors, vous voyez, là, il y a les deux antériorités sur lesquelles Aristote joue, sur lesquelles il joue tout le temps, l'antériorité du logos au point de vue de l'intelligibilité et l'antériorité au point de vue de l'existence. Ce n'est pas la même antériorité. L'âme est antérieure au corps au point de vue de l'intelligibilité. L'âme n'est pas antérieure au corps au point de vue de l'existence. Telle partie est antérieure au tout au point de vue de son intelligibilité, mais pas toujours au point de vue de son existence. Le doigt par rapport à la main. Antériorité au point de vue de l'intelligibilité, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas comprendre le doigt sans la main. À moins que la partie se dise de diverses façons, l'une d'elles signifiant ce qui mesure du point de vue de la quantité, mais laissons de côté cette façon de dire, et parmi les autres, examinons le cas de la substance en tant que constituée de ses parties. Ça, c'est une très grosse question, très grave question, la question de la partie, des parties et du tout, et des ordres différents qui existent entre les parties et le tout. Sauf qu'il y ait là un problème, on n'a pas le temps de traiter ici, c'est pas tout à fait le lieu, mais au fond, c'est un problème qu'Aristote revient souvent, toujours la question de l'antériorité. La définition implique des parties, vous voyez. Animal raisonnable. Animal est connu avant homme. Animal est parti de homme. Il est connu avant. Mais l'animal peut exister avant l'homme, d'une certaine manière, dans une certaine vision. On peut dire que l'animal existe avant l'homme. Et au fond, normalement, l'animal existe avant l'homme. Rationnel est aussi une partie. Et cette partie existe-t-elle avant le tout? Non. Rationnel n'existe pas sans animal. Tandis qu'animal peut exister sans rationnel. Oui. Alors c'est de savoir quand il y a antériorité dans l'ordre de l'intelligibilité et antériorité dans l'ordre de l'existence. à moins que la partie se dise de diverses façons. Ainsi, si l'on a d'une part la matière, d'autre part la forme, enfin le composé des deux, et si la matière, la forme et le composé sont substance, il arrive aussi que la matière puisse être dite partie de quelque chose, d'un certain point de vue, et d'un autre, non. Les parties étant alors ce qui constitue la notion de la forme. Par exemple, la chair n'est pas partie de la concavité, car elle est la matière dans laquelle celle-ci est réalisée. Mais elle est partie du Camus. Et encore, l'airain est partie de la statue, puisque en sa totalité, et non pas de la statue considérée comme forme, en effet, il faut dire la forme et chaque chose pour autant qu'elle a une forme, mais l'élément matériel en soi ne doit jamais être dit. Voilà pourquoi la notion de cercle ne contient pas celle des segments, tandis que celle de la syllabe contient celle des lettres. En effet, les lettres sont les parties de la notion de la forme et ne sont pas la matière, tandis que les segments sont les parties considérées comme la matière dans laquelle est réalisée la forme. Encore, qu'ils soient plus proches de la forme que l'airain lorsque la forme circulaire est réalisée dans l'airain. Mais il arrive que toutes les lettres n'entrent pas dans la notion de la syllabe. Par exemple, celles qui sont écrites sur la cire ou celles qui sont émises dans l'air, car déjà, elles sont aussi une partie de la syllabe en tant que matière sensible. Et en effet, il n'y a pas de ligne si, une fois divisée, elle se résout en demi-ligne où l'homme n'est pas si où l'homme n'est pas, si une fois divisé, il se résout en os, nerfs et chair. Pour cette raison, ces éléments sont ainsi de ces choses comme étant des parties de la substance, comme celles de la matière, et sont parties d'une part du tout, et d'autre part de la forme, et de ce dont il n'y a plus de logos. Et c'est pourquoi ils ne sont pas dans les logoi. Ainsi donc, de certaines réalités, le logos de telle partie est possible, tandis que pour d'autres, il ne faut pas que le logos les contienne, sinon de la chose prise en son ensemble. C'est pourquoi, en effet, certaines réalités sont de ces éléments comme principes en lesquels elles se résolvent, et d'autres non. Et ainsi, celles qui ont une composition de la forme et de la matière, par exemple le Camus ou le cercle d'airain, se décomposent en ces mêmes éléments, et la matière fait partie d'eux. Celles au contraire qui, dans leur composition, ne comportent pas de matière, mais sont sans matière, et dont il n'y a pas dont il n'y a que les notions de la forme. Celles-ci ne se décomposent ou bien absolument pas, ou bien du moins pas de cette façon. De sorte que ces éléments sont partie ou principe des premières choses envisagées, mais ne sont pas principe et partie de la forme. Et c'est pour cela aussi que la statue d'argile se décompose en argile, la sphère en airain, Callias en chair et en os, et même aussi le cercle de segments. Il est en effet un certain cercle qui comporte de la matière en sa composition, car on appelle équivoquement cercle le cercle pris d'une façon absolue et le cercle particulier. C'est pourquoi il n'y a pas de nom propos, il n'y a pas de nom propre pour les cercles particuliers. voyez un peu la composition, je ne veux pas m'arrêter trop parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est toute la question des parties et du tout qu'Aristote essayait d'agiter ça ici. Alors, c'est un grand secteur au point de vue logique, hein. C'est toutes les manières de définir par les parties, parce qu'on définit le tout en fonction de la partie. Alors est-ce que c'est savoir est-ce que le tout est connu avant les parties ou est-ce que les parties sont connues avant le tout? Dans certains cas, le tout est connu avant les parties, dans d'autres cas, les parties sont connues avant le tout. Et comment discerner les deux? Parce qu'en fond, c'est au point de vue méthodologique, c'est ce qu'Aristote souligne ici. Alors, les parties intégrantes d'un tout, ne peuvent pas être connues comme parties avant, puisqu'elles sont parties intégrantes. Et donc, c'est le tout qui nous fait connaître la partie. Est-ce que le doigt est une partie intégrante de la main? Est-ce que les cinq doigts sont parties intégrantes de la main? Ils sont parties intégrantes. Donc, c'est par le tout que je connais la partie. Parce que si elle est partie intégrante, elle est intégrée dans le tout. Et donc c'est le tout qui lui donne sa forme. Elle n'a pas de forme par elle-même. Et donc c'est le tout qui lui permet de connaître la partie. Tandis que si au contraire vous avez des parties qui ne sont pas des parties intégrantes, qui sont des parties juxtaposées, chaque partie peut être connue par elle-même. Et on peut l'additionner à une autre partie. Et alors vous aurez le tout composé. Je crois que ce serait très intéressant pour la critique de la dialectique, ça. Parce qu'en fond, la question de la dialectique fait que toujours on considère les deux thèses et antithèses comme des parties d'un tout. Ah, ça peut être vrai que les parties fassent connaître le tout quand les parties sont connues avant. Mais il y a des touts qui sont connus avant les parties. Alors à ce moment-là, vous n'avez plus la possibilité d'une dialectique, d'une démarche dialectique. Si le tout est antérieur à la partie. Vous avez au contraire à ce moment-là une démarche d'analyse. J'ai le tout et j'analyse pour mieux connaître tous les os du poulet. Hein? Alors, il faut analyser. J'ai le tout et puis il y a toutes les parties. Oui. Tandis qu'il y a au contraire, dans d'autres cas, les parties s'additionnent et forment un tout. Et je connais la partie avant et c'est par la partie que je connais le tout. Vous voyez, l'erreur, hein, de la dialectique, c'est de confondre ces deux aspects-là. De faire un amalgame, je confonds les deux parties. Alors, l'intérêt ici d'Aristote, c'est de montrer que, de fait, il y a des touts qui sont connus avant les parties, et il y a des parties qui sont connues avant le tout. C'est tout simplement ça qu'il veut montrer. Hein. Oui. Par rapport à la chair de la substance, n'oubliez pas, c'est la question que vous êtes en composé. Vous êtes un tout. Et la substance, est-ce que c'est tout, vous? Ou est-ce qu'elle est principe? Si elle est principe, elle peut être partie. Est-ce que la substance est connue avant tout? Oui, c'est cette idée-là. Si vous êtes un être organique, vous êtes une cathédrale de molécules, n'est-ce pas? Alors, vous êtes un tout. L'individu est un tout, la personne est un tout. Et cet homme dit toujours, la personne est un tout. La substance. Est-ce que vous dites que la substance est un tout? Ou est-ce que la substance est première? Quand je prends forme, matière, bon, j'ai des parties, et j'ai le tout, le corps physique. Alors, la substance est-elle une partie? Est-elle un principe source du reste? C'est pas la même chose. Est-ce que la substance est partie intégrante? Est-ce que vous pouvez dire que la substance est partie? Mais c'est tout ça qu'il essaie de secouer dans tous les sens pour que nous comprenions mieux, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, pour que nous comprenions mieux ce que c'est que le premier. Il arrivera au chapitre 17 en disant la substance est archée, la substance est principe, donc elle est première. Est-elle première comme un tout? Est-elle première commune, partie, elle garde un tout, ou est-elle elle-même un tout? La substance première des catégories, c'est un tout. C'est un taux d'étis. Le taux d'étis, c'est un tout. La substance première, c'est un tout. La substance seconde, ah, elle n'est pas tout, parce qu'elle est attribuée à la substance première. Quel rapport y a-t-il entre cette partie et ce tout? Oui. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il secoue ça dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui est premier? L'intelligibilité du tout ou l'intelligibilité de la partie? Tout dépend ce que c'est que cette partie. Si cette partie est un principe, il a son intelligibilité propre. La substance est intelligible par elle-même, parce qu'elle est principe. Elle est aussi partie, elle est principe. Si elle est principe, elle a son intelligibilité propre. Je ne connais pas la substance par le tout, mais je connais le tout par la substance. Le tout organique que je suis comme vivant est intelligible grâce à l'âme. L'âme est principe. Principe du tout. Et c'est par elle que je connais le tout. Mais si je ramène le point de vue uniquement du point de vue du corps et des divers organes, alors je dirais que les divers organes ne peuvent se comprendre qu'en fonction du tout. Comment voulez-vous comprendre le pied en lui-même? Pas le comprendre, je le comprends en fonction de ce tout organique dans lequel il joue un rôle particulier. Et parce qu'il joue un rôle particulier, il a son intelligibilité propre. Vous voyez, c'est ça qui était sous-jacent à cette recherche. Alors évidemment, c'est dit comme ça, mais c'est parce que de fait, n'oublions pas que c'est toujours la recherche des premiers. Aristote essaie dans ce livre Zeta, il essaie d'unir tous les premiers. Eh bien, parmi les premiers, il y a une partie. Il y a la partie. La partie est quelquefois première. Et la partie est quelquefois pas du tout première. C'est le tout du premier. Distinguez bien les deux. Quand vous voyez une partie et un tout, posez-vous la première question. Est-ce que le tout est premier? Est-ce que la partie est première? Et ça change tout. Ainsi donc, est bien vrai ce que nous venons de dire. Maintenant, cependant, tâchons de parler plus clairement encore en reprenant la question. C'est en effet ces parties qui sont celles de la notion du logos et en lesquelles se résout la notion, lui sont antérieures toutes ou certaines seulement. D'autre part, le logos dans le droit ne se résout pas en la notion d'angle aigu. Quel rapport est-il entre l'angle droit et l'angle aigu? Mais c'est dans l'aigu, en c'est dans le droit. Car pour définir l'angle aigu, on se sert de l'angle droit. L'angle aigu, en effet, est en effet un angle plus petit que l'angle droit. Si vous vous servez d'une notion pour définir une autre notion, ça vaut qu'elle est antérieure. Parce que je vous ai dit déjà plus d'une fois, venez, je fais une petite application ici au point de vue métaphysique, ce qu'il faut toujours se rappeler. Quand saint Thomas dit « l'essai actus est saint », saint Thomas veut préciser ce que c'est que l'essai. Il dit actus et sandi. Ça prouve que actus est plus intelligible que essai. Je ne veux jamais ramener quelque chose de plus intelligible à une moins intelligible. C'est une bêtise. Vouloir comprendre le Nouveau Testament par l'Ancien, c'est vouloir comprendre le parfait par l'imparfait. Tous d'accord? Et cependant, on fait autant l'application. C'est ça la philosophie, ça sert à ça. Je veux comprendre esse en disant actus, esse, l'acte d'être. Ça prouve que l'acte est plus intelligible que l'essai. C'est C'est exactement ce que dit Aristote ici, la partie et le tout. Une partie première est plus intelligible. C'est les premières dans l'ordre de perfection. Vous voyez, vous allez toujours vous rattraper parce que vous allez dire, ah oui, dans l'ordre de l'intelligible, c'est sûr, le parfait fait comprendre l'imparfait. Mais dans l'ordre génétique, l'imparfait fait comprendre le parfait. Ah oui, dans l'ordre génétique, l'imparfait dispose. Je ne vais pas comprendre. Il dispose, il conduit à. L'Ancien Testament conduit au Nouveau. Il n'est pas plus intelligible. C'est le Nouveau Testament qui est plus intelligible. L'Ancien Testament est une partie du tout. Est-ce que je peux dire que dans le Nouveau Testament, ce qui est ultime est partie du tout? D'une certaine manière, il est parti, d'autre part, c'est lui qui donne l'intelligibilité à tout le reste. Donc le principe est fin. Alors ça, c'est évident que nous ne sommes pas très habitués à ce genre de raisonnement. Ainsi donc, il est bien vrai ce que nous venons de dire. Maintenant, cependant, tâchons de parler plus clairement encore en reprenant la question. En effet, ces parties qui sont celles de la notion, en lesquelles se résout la notion, lui sont antérieures toutes ou certaines seulement. D'autre part, la notion d'angle droit ne se résout pas à la notion d'angle aigu, mais celle d'angle aigu en celle d'angle droit, car pour définir l'angle aigu, on se sert de l'angle droit. L'angle aigu est en effet un angle plus petit que l'angle droit. Le cercle et le demi-cercle sont aussi dans une relation de cette sorte, car le demi-cercle est défini par le cercle, et le doigt est défini par le tout, car le doigt est telle partie déterminée de l'homme, en sorte que les parties prises comme matière et en lesquelles se résout une chose comme en sa matière sont postérieures. Alors c'est ici où il donne le principe. Hein. Toute l'intelligibilité, la loi d'intelligibilité est ici. Hein. Tout ce qu'il a dit avant, c'est du bon bavardage grec. Hein. Pour dénouer, montrer que c'est complexe, c'est sur la gorge, on fait des trucs comme ça. Alors il s'agit de comprendre. Alors après, pourquoi vous ne comprenez plus rien? Ah, voilà. En sorte que les parties prises comme matière et en lesquelles se résout une chose comme en sa matière sont postérieures, tandis que celles qui sont considérées comme parties du logos et de la substance, selon le logos, sont antérieures en totalité ou en un certain nombre. Alors vous voyez l'aspect qu'il donne ici, c'est intéressant comme expression. Le logos, la substance selon le logos, hein, selon la notion. C'est très intéressant ça. Parce que c'est au point de vue langage, c'est intéressant de bien saisir ce qu'il veut dire quand il dit justement l'ousia selon le logos. Hein. L'ousia qui est kata, le logos, qui est selon le logos. Alors à ce moment-là, tout ce qui est selon le logos, tout ce qui est selon la forme, les parties selon la forme sont antérieures au tout. Et ont leur propre intelligibilité. Oui. Donc il prend les parties ordonnées à la matière, les parties qui sont liées à la matière, les parties prises comme matière. Sont du côté de la matière. Ces parties-là sont nécessairement postérieures, tandis que celles qui sont considérées comme parties du logos sont antérieures. C'est-à-dire, elles ont leur intelligibilité propre. Tandis qu'au contraire, les autres n'ont pas d'intelligibilité dehors du tout. Très important, ça, quand même, une question. Au point de vue méthodologique, la théorie des ensembles, qu'est-ce qui est premier? Les parties ou le tout? C'est ça qui est intéressant. Alors en mathématiques, c'est très particulier. N'appliquons pas ça à n'importe quoi, parce que partout, on retrouvera le point de vue de la matière et du logos. Alors faisons attention, parce que c'est parti et tout. partie et tout. Eh bien, le tout selon la matière et le tout selon le corps, c'est deux choses tout à fait différentes. Puisque le rapport partie au tout est différent quand il s'agit du point de vue de la matière et quand il s'agit du logos. On dit que celles qui sont considérées comme partie de la notion et de la substance selon la notion sont antérieures en totalité ou en un certain nombre, puisque d'autre part, l'âme des animaux, c'est en effet la substance de l'être animé et la substance selon la notion. Donc, l'âme des animaux et la substance selon la notion. La forme et la quantité pour tel corps déterminé. Donc, chaque partie, en tout cas, pour être bien définie, ne saurait être sans la chose qui, elle, ne peut exister sans la sensation. Il s'ensuit que les parties de cette âme sont antérieures en totalité ou en un certain nombre à l'animal pris comme un tout, et pareillement à chaque animal particulier. Tandis que le corps et ses parties sont postérieurs à cette substance et que ce n'est pas la substance mais le tout composé qui se résout en ses parties comme en sa matière. C'est exactement ça, l'application exacte de ce qu'il vient de dire. Vous voyez, c'est ça qu'il faut bien saisir. La question de matière et forme, parce que le logos, c'est la forme. J'aime bien employer le logos, puisqu'il emploie le logos, c'est la forme. Ainsi donc, d'une certaine façon, ces parties sont antérieures au tout composé. D'une autre, non, car elles ne peuvent exister à l'état séparé. Et en effet, le doigt d'un animal n'existe pas pris dans l'absolu. Mais parler du doigt mort est équivoque. Un doigt qui suspend, c'est équivoque. C'est plus un doigt, parce qu'il est plus vivant. Il est plus relié au vivant. De plus, certaines parties sont simultanées au tout. Et elles sont principales. Et dans la première, il y a la notion et la substance comme si elles étaient la tête et le cerveau. Ou le cerveau, en effet. Que cela soit l'un ou l'autre des deux, c'est sans importance. Mais l'homme et le cheval et les autres choses de ce genre sont parmi les singuliers, mais pris universellement, ils ne sont pas substance, mais un certain tout à partir d'un certain logos et d'une certaine manière prise universellement, mais dans sa singularité. Socrate est déjà de la matière ultime et il en va de même dans les autres. Ainsi donc, il y a une partie de la forme, j'appelle forme la quinité, et un et une du tout composé de la forme et de la matière, et une de la matière elle-même. Mais seules sont parties de la notion, les parties de la forme. Il n'y a notion que de l'universel, en effet. L'être du cercle et le cercle, l'être de l'âme et l'âme, c'est la même chose. Mais assurément, pour le tout composé, par exemple, pour ce cercle-ci, un des cercles particuliers sensibles ou intelligibles. J'appelle cercle intelligible, par exemple, ceux du mathématicien. Et sensible, ceux, par exemple, qui sont d'airain ou de bois, et bien que de ces cercles, il n'y a pas de définition, et ils ne sont connus que grâce à la pensée ou à la perception sensible, si bien qu'une fois sortis de cette activité connaissante, entelekeia, on n'est plus sûr qu'ils existent ou non. Encore qu'ils soient toujours dits et connus par leur notion universelle. De plus, la matière en soi est inconnaissable. Il y a la matière sensible et la matière intelligible, matière sensible comme les reins, le bois ou toute matière capable d'être mue. Matière intelligible, celle qui se trouve dans les objets sensibles, non considérés en tant que sensibles comme les êtres mathématiques. Un petit coup comme ça, vous voyez, des petits incisifs comme ça qui présupposent des tas de choses. Aristote résume ça. Qu'est-ce que c'est que la matière intelligible? La matière intelligible, c'est l'être mathématique. La mathématique, ce n'est pas la matière sensible. C'est une abstraction nouvelle par rapport à la matière sensible. Et alors, c'est l'exemple-là du tout qui a quelque chose de tout à fait particulier. Mais c'est toujours la même idée, hein, à travers tout ce chapitre. C'est toujours la même idée, c'est d'essayer de comprendre la relation entre tout et partie. Et alors, il nous a démontré là ce que représente cette relation. Ainsi donc, après avoir dit ce qui se passe pour le tout et la partie, leur antériorité, leur postériorité, il est nécessaire de répondre à la question que nous posions en demandant si l'angle droit, le cercle et l'animal étaient antérieurs ou si c'était les parties en lesquelles ils se décomposent et qui les constituent. Disons que la réponse n'est pas simple. C'est bien évident. En effet, si l'âme est l'animal et l'être animé, ou encore si l'âme est, si l'âme de chaque être est chaque être, si le cercle est l'être du cercle, si enfin l'angle droit est l'être de l'angle droit et la substance de l'angle droit, d'une part alors, que faut-il dire postérieur? Et à quoi? Par exemple, en ce qui concerne les éléments de la notion d'angle droit, il y a un certain angle droit particulier. Et en effet, il y a celui qui est avec la matière, l'angle droit des reins, et celui qui est fait de lignes particulières. Et d'autre part, l'angle droit sans matière est postérieur aux éléments de la notion et antérieur aux parties qui sont dans le particulier. Ainsi, on ne peut rien dire de simple. Si l'âme est autre et n'est pas l'animal, alors, comme nous l'avons indiqué, il faudra parler d'antériorité des parties dans certains cas et pas dans d'autres. C'est le truc d'Aristote ici, hein. C'est d'essayer de montrer la complexité qu'il y a pour nous d'analyser une réalité physique. Parce que cette réalité peut se considérer sous divers aspects différents. Et je crois que c'est au fond ça qu'Aristote souligne. Vous voyez, c'est la question, et alors toujours en vue de la substance, hein, mais c'est toujours essayer de voir est-ce que je peux dire qu'une partie est vraiment antérieure. On ne peut pas le dire de façon absolue. Est-ce que je peux dire qu'un principe est antérieur? Je ne peux pas le dire de façon absolue. Donc ça relativise énormément, vous voyez, le point de vue de l'antériorité. Et alors, il faut encore préciser l'antériorité intelligible et l'antériorité existentielle. C'est deux antériorités différentes. Chapitre 1. On est encore à juste titre dans l'embarras pour savoir quelles sont les parties de la forme et celles qui n'en sont pas, mais sont parties du tout composé. Néanmoins, ce point n'étant pas éclairci, il est impossible qu'une chose particulière soit définie, car il n'y a de définition que de l'universel et de la forme. Si donc n'apparaissent pas clairement quelles parties sont considérées comme matière et telles qui ne le sont pas, il n'y aura pas non plus de notion claire à la chose. Ainsi, certaines parties paraissent donc être nées par la forme de matière différente, tel un cercle dans les reins, dans de les reins, de la pierre et du bois. Certaines parties paraissent donc être nées par la forme de matière différente, de manière différente, et par la forme de matière différente. Tel un cercle dans les reins, de la pierre et du bois. Celle-ci semble être manifeste puisque ni les reins ni la pierre, en raison de leur séparation des parties, ne sont rien de la substance du cercle. Mais quant à toutes celles qu'on ne peut pas voir séparées, rien n'empêche qu'il n'en soit ainsi à leur sujet, comme si tous les cercles étaient vus des reins. En effet, les reins ne seraient en rien davantage partie de la forme. Mais il est différent d'enlever de la pensée cet airain. Par exemple, la forme de l'homme apparaît toujours dans de la chair, des os et des parties semblables. Ces choses-ci sont-elles donc aussi partie de la forme et du logos, et non, mais de la matière. Or, nous ne pouvons pas faire la séparation du fait que cette forme ne peut survenir à d'autres, ne peut survenir d'autres éléments matériels. Mais puisque cela paraît possible, sans toutefois qu'on sache clairement en quelles circonstances, certains soulèvent alors la difficulté aussi au sujet du cercle et du triangle, disant qu'ils ne conviennent pas de les définir par des lignes ou le continu, mais que toutes ces données sont dites de la manière dont on parle des chairs et des os pour l'homme, des reins et de pierre pour la statue. Et ils ramènent toutes ces données au nombre et disent que la notion de ligne est celle des deux. Et ils continuent la même chose. Hein. Vous voyez, l'idée que c'est celle-ci, c'est la difficulté qu'on a d'abstraire la forme de la matière. Alors, il prend tout simplement un exemple artistique, le point de vue du cercle. Il est facile de comprendre l'idée du cercle, ou le logos du cercle. Pourquoi ? Parce que le cercle n'est pas toujours un cercle d'airain. Il est un cercle d'airain, il est un cercle de pierre, il est un cercle de bois. Alors, parce que le cercle est à la fois d'un élément, c'est facile pour nous de séparer. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de l'âme humaine, vous n'avez jamais vu l'âme humaine dans de la pierre. Vous n'avez jamais vu l'âme humaine dans du bois. Vous l'avez toujours vu dans une chair, dans la chair des os. Et donc, il est très difficile pour nous de séparer l'âme de la chair, c'est-à-dire du corps, parce que le corps est toujours, de fait, le corps naturel est toujours dans la même harmonie par rapport à l'âme. Tandis que dans une œuvre d'art, la forme, donc l'analogue de l'âme, est dans des matières différentes. Et donc la séparation me permet de comprendre la distinction. Et ça, c'est très vrai. L'abstraction pour nous est toujours une chose difficile. La séparation est une chose facile. Il y en a qui ne peuvent absolument pas distinguer entre la séparation et l'abstraction. La séparation, c'est quand les choses peuvent exister séparées les uns des autres. Tandis que l'abstraction, c'est l'intelligence qui, elle, isole, abstrait. Alors, il donne cet exemple pour que nous comprenions mieux ce que représente, ce que fait l'intelligence. L'intelligence, en abstrayant, fait de la partie un tout. elle fait de la partie à tout. Dès qu'elle abstrait, elle fait de la partie à tout. Elle fait de la forme ou de l'âme humaine quelque chose de premier à tout, un universel. Tandis qu'au contraire, lorsque je suis dans la réalité, je vois tout de suite le cercle, le lien de ce cercle avec l'airain, avec telle ou telle matière. Et la séparation me permet de comprendre la distinction. Tout simplement cet exemple qu'il prend, qu'il aime de prendre du reste. Ça a fait comprendre que face à Platon, c'est toujours ce que ça demande dit par rapport à Platon, Platon a projeté l'abstraction dans le réel. Il n'a pas vu la distinction entre la séparation et la fraction. Ça, c'est capital. Voir la distinction entre l'abstraction et la séparation, c'est voir la distinction entre l'appréhension et le jugement. L'appréhension abstrait, le jugement sépare. L'abstraction se fait avant tout et en premier lieu par l'appréhension. Alors, vous voyez, si je considère comme réel tout ce que j'abstrais, je ferai une platonique. J'abstrais la forme, je considère en bon platonisme que la forme en soi existe. Alors que la forme est tout simplement abstraite. Elle n'existe pas, sauf dans mon intelligence. Et elle ne peut exister que dans mon intelligence. Tandis que quand je dis qu'elle est séparée, je la considère comme existant en elle-même. Donc là, il y a une petite distinction qui est très très importante et qui joue un rôle extrêmement important dans Aristote et que Saint Thomas a repris de façon très très forte pour essayer de comprendre la différence entre séparation et abstraction. Ça, c'est capital. Saint Thomas dit ça dans son, c'est pas traduit en français, dans son commentaire du De Trinitate de Boès. Il y a quelques pages là qui ont fait beaucoup couler d'encre, qui sont très importants, qui ont une page extrêmement intéressante, mais ça n'a pas trait de cette question de l'abstraction, de la séparation. Quelle différence est-il entre abstraire et séparer? Alors là, c'est l'exemple très très simple. La forme cercle peut exister dans des matières très différentes. Grâce à la séparation, je comprends la distinction qui existe entre les deux. Tandis que l'âme et le corps, il n'y a jamais vu d'âme humaine dans un corps martien. Il n'y a jamais vu l'âme humaine dans un corps qui soit un corps différent de la chair et des os. Alors vous avez beaucoup de peine à abstraire et à considérer que je peux comprendre l'âme humaine indépendamment du corps, comme quelque chose de premier, comme un principe. On aurait sur le dos, parce qu'au fond, c'est le gros problème qui se pose aujourd'hui, qui se posait déjà chez Aristote. Est-il légitime d'abstraire? Beaucoup n'accepteront pas, diront, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est de décrire, je décris le cercle de pierre, le cercle d'airain, je décris, mais je n'abstrais pas. Je décris ce que c'est que l'homme vivant, mais je ne sépare pas, je ne distingue pas son âme et son corps. Vous voyez, il y a quelque chose là de très très important au point de vue critique de connaissance. Donc il faut bien préciser, si vous voulez. Précision. Première attitude philosophique, celui qui, de fait, ne veut jamais abstraire. Donc celui-là ne peut pas aboutir au niveau scientifique. Pourquoi? Parce que ce qui constitue la science, c'est l'universel. Toute science implique l'universel. Impossible autrement. Pourquoi? Parce que c'est l'universel qui est source de lien de nécessité. Toute science cherche la nécessité. Donc, toute connaissance scientifique implique l'universel. L'universel est un être de raison. L'universel est un être de raison. Et quand je dis que c'est un être de raison, c'est un être qui n'existe que dans mon intelligence. Dans la réalité, il existe des singuliers. La science n'existe que dans mon intelligence. Elle a un fondement dans le réel, plus ou moins précis, mais elle n'existe que dans mon intelligence. Un être de raison. La science implique nécessairement l'universel. Tant qu'on n'a pas découvert l'universel, on ne peut pas savoir ce que c'est que la science. Bon, ça, premier type de connaissance. On voit très bien ce point de vue-là. D'accord. C'est pour ça qu'Aristote va se demander si l'universel, c'est la substance. Parce que l'universel, c'est le premier, dans un ordre donné, l'être de raison. Tandis que la substance est première dans l'ordre réel. On va vers ça, parce que les chapitres suivants, ça va aller vers ça. Ça va être beaucoup plus facile de reste. Les chapitres qu'on voit là sont les chapitres les plus difficiles en raison même de leur complexité. C'est très facile à penser, mais en raison de leur complexité, la manière dont c'est dit, c'est assez complexe. C'est assez facile à penser une fois qu'on a compris tout simplement qu'on recherche où est un premier. Est-ce que c'est la partie essentielle? Puis en tout dessus. Et puis de temps en temps, c'est la partie, de temps en temps, c'est tout. Bon. Alors, ça, l'universel. Deuxièmement, celui qui accepte l'abstraction. En réalité, si vous acceptez l'universel, vous acceptez l'abstraction. Tous ceux qui acceptent la science acceptent l'abstraction. Pas de science sans abstraction. Il y a des filles dont les savants acceptent. Ça part très bien.